La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots qui aujourd'hui va vous parler de cinéma dans notre séquence Ma Parole, mais qui auparavant va parler de quoi ? De beaucoup de choses, peut-être du dernier épisode de Star Wars, des dangers du soleil pour la peau, du bien-être animal dans les abattoirs ou de Mamoudou Gassama. Ça fait un beau sommaire, ça. Eh bien, ce sont les sommaires qu'on peut retrouver dans deux journaux pour enfants qui sont Dis-moi tout et Le Progrès pour enfants. On va retrouver dans une seconde avec leurs animatrices. Le progrès des enfants et Dis-moi tout. Voilà donc ce qui nous occupe. Bonjour Lara Mercier, bonjour Bérénice Guémard.
Bonjour, bonjour.
Vous régnez donc sur cette belle presse pour enfants. Qu'est-ce qu'on peut lire donc dans Dis-moi tout et dans Le progrès des enfants ?
Des sujets extrêmement variés, puisqu'on essaye vraiment de parler de tout aux enfants et d'utiliser leur curiosité naturelle pour diversifier nos sujets. Donc ça peut être autant des sujets politiques, économiques, historiques, un petit peu sérieux, et également des sujets un peu plus légers, on va dire, de découvertes, d'astronomie, de fossiles, de dinosaures retrouvés, etc. On essaye de faire quelque chose d'assez complet.
Donc ce sont deux journaux pour enfants qui paraissent tous les jours en ligne et qui sont liés à la presse pour des lecteurs qui ne sont pas forcément des enfants, puisque Dis-moi tout, c'est lié au groupe Ouest France et que Le progrès des enfants, c'est lié au progrès de Lyon. C'est
cela ? Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il s'agit exactement du même journal avec deux titres différents ? Est-ce qu'il y a des différences ? Qu'est-ce qui vous lie ? Pourquoi vous êtes venus ensemble, en fait ?
Alors, en fait, on travaille pour la société Presse for Kids, qui a donc trois titres pour les enfants, qui sont donc des quotidiens d'actualité, comme l'a dit Lara. Et donc, on a un titre américain qui s'appelle Newsomatic, deux titres en France, et on partage plusieurs sujets entre ces trois éditions, qui sont des sujets dont on pense qu'ils peuvent intéresser des enfants aux États-Unis aussi bien qu'en France. Et puis, on traite de sujets aussi un peu plus locaux. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'Andy Dis-moi tout News, de Mamadou Gassama. On parle
C'est donc le héros du jour.
C'est le héros du jour.
Le Spider-Man
du jour.
Même si tout le monde le sait.
Eh bien, il a escaladé quatre étages d'un balcon pour aller sauver un enfant qui était accroché à la balustrade par une seule main. Ça s'est passé samedi dans le 18e arrondissement à Paris. Ce jeune homme qui était sans papier a obtenu la nationalité française et un poste de sapeur-pompier à la brigade de Paris.
Et comme on dit chez les enfants, sapeur-pompier, non, ça n'a pas peur, pompier.
Tout à fait. On parle aussi, par exemple, du bien-être animal dans les abattoirs, puisque c'est ce qui a eu le débat houleux qui a eu lieu à l'Assemblée nationale dans la nuit, sur la question de la vidéosurveillance. Donc, c'est des sujets d'actualité qui peuvent sembler loin des enfants et qui, en fait, les concernent beaucoup, parce qu'ils mangent de la viande, parce qu'ils sont touchés aussi par le destin des animaux qu'ils connaissent bien. Et donc, on essaye de leur faire toucher du doigt aussi certaines réalités qu'ils voient peut-être pas en surface, et d'expliquer avec des mots simples et accessibles des réalités un peu complexes de la vie quotidienne.
Donc vous avez des sommaires, vous avez des contenus qui bien sûr concernent l'actualité, mais qui sont peut-être un petit peu moins chauds que ceux qu'on peut voir dans la presse pour adultes. Vous prenez un tout petit peu de recul. Parfois vous êtes sur l'événement, c'est ce qu'on a vu avec le Spider-Man qui avait sauvé un enfant, et parfois vous faites réfléchir sur des sujets dont les enfants ont pu entendre parler depuis une semaine, 15 jours, un mois ou 6 mois. C'est le cas par exemple pour le bien-être animal dans les abattoirs.
Oui, en général on attend de voir dans l'actualité ce qui va donner naissance à des décisions importantes ou pas. On évite de faire du commentaire, en fait. Donc on attend en général un événement très concret pour en parler, et on demande aussi beaucoup leurs avis aux enfants. Par exemple, sur la question de l'interdiction des pailles ou sur la réintroduction des loups en France, on leur a demandé « qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous fait peur ? Quelles sont les questions que vous vous posez à ce sujet ?» Et donc là, on reçoit beaucoup de réponses d'enfants qui commentent.
C'est-à-dire que parfois, vous répondez à la demande.
Oui.
Ce sont des courriers ou des réactions de lecteurs et de lectrices qui suscitent un certain nombre d'enquêtes de votre part et d'articles.
Tout à fait. On a une rubrique par semaine qui s'appelle la question de la semaine, dans laquelle on répond à la question d'un enfant. Alors ça peut être des questions comme, durant la campagne, à quoi sert un président de la République ? Ça peut être des questions, celle de demain, je peux vous le dévoiler, sera sur les tigres blancs. Ça peut être sur des sujets qui
les
sont...
Les tigres blancs, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'on en aura
d'où ils viennent ?
Encore
est-ce que c'est une espèce à part entière ou pas ? Enfin voilà, ça peut être sur à quoi sert le sang dans le corps. Donc il y a plein de sujets très différents. On essaye de faire appel à des experts pour y répondre. Et donc c'est une façon aussi de ramener l'actualité à la hauteur des enfants et d'aborder les sujets qui les intéressent eux.
Pour les impliquer vraiment dans la fabrication du journal et pas juste faire un journal comme pour adultes avec des mots qui s'adressent aux enfants, mais s'intéresser aussi à leur point de vue, à leurs préoccupations et à leur façon de penser aussi, parce que c'est des manières de penser qui sont très différentes. On parlait tout à l'heure de la question de la semaine. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'articles sur les élections présidentielles l'année dernière. Et en fait, les enfants étaient beaucoup moins intéressés par le déroulement d'une élection que par des questions beaucoup plus fondamentales.
Alors,
comme,
si je comprends bien, Lara Mercier, c'est pour essayer que les enfants s'orientent un peu mieux dans l'actualité qu'ils voient occuper leurs parents.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Avec qu'ils sachent de quoi il est question et qu'ils soient pas perdus d'une certaine façon.
Qu'ils soient pas perdus et qu'ils puissent raccrocher ce qui se passe dans le monde à leur connaissance, à eux. Et du coup, souvent sur des questions beaucoup plus fondamentales, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chef ? Qui est une question qu'en tant qu'adulte, on se pose pas, mais qui a énormément d'intérêt et qui permet de revenir un peu aux bases de la politique.
Great Kids et Fela qu'on entendait dans la danse des mots, à propos donc de ses grands-enfants et de ses petits-enfants qui lisent Dis-moi tout ou Le progrès des enfants, qui s'adresse donc à un lectorat de quel âge, Lara Mercier ?
Entre 6 et 12 ans.
Entre 6 et 12 ans, avec des sous-catégories ou pas ?
Voilà, en fait on a différents niveaux de lecture. Un premier pour les 6-8 ans, un deuxième pour les 8-10 ans et un dernier pour les 10-12 ans. Ce qui nous permet de faire trois versions d'un même article sur un même sujet, mais adapté à chacun en fonction de son niveau de langage et d'âge.
Alors, on lit ça sur quel support en fait ? C'est pas de la presse papier que vous fabriquez ?
Non, on lit ça principalement sur des applications, puisque ça a été développé comme ça, donc tablette, téléphone portable. On lit ça aussi sur Internet, sur nos sites. Le principal intérêt du numérique, c'est qu'on peut du coup avoir des vidéos, on peut avoir beaucoup de dessins de la part des enfants, énormément d'interactions avec eux. On a choisi le format tablette, puisque c'est captif, donc on ne veut pas que les enfants puissent avoir accès par nous à d'autres sites Internet. Donc le principe, c'est que c'est un réseau fermé, nous on a juste leur prénom et leur âge, mais ils peuvent pas communiquer entre eux et personne ne peut communiquer avec eux. Donc ça, c'est un des avantages que nous offre l'application. Voilà, donc c'est une façon d'utiliser, c'est du temps d'écran intelligent qu'on leur propose.
Et alors, comment est-ce qu'on écrit pour les enfants ? Est-ce que ça vous a demandé, à vous qui avez des formations de journaliste, une adaptation pour pas bêtifier, mais pour être très compréhensible et pour être, mettons, au plafond de ce que vont comprendre vos lecteurs, pour essayer de les tirer un petit peu vers le haut, mais en même temps de pas les décourager. Qu'est-ce que ça nécessite comme contrainte d'écriture ?
Alors, l'une des premières contraintes, c'est de toujours être extrêmement précis, extrêmement clair, et de pas utiliser de sous-entendus ou de formules toutes faites. Par exemple, quand on parle de quelqu'un qui meurt, on dit que quelqu'un meurt et on ne dit pas qu'il disparaît, puisque disparaître, ça veut dire autre chose dans la tête d'un enfant, donc ça peut être encore plus anxiogène.
Mais vous dites qu'il meurt.
On dit qu'il meurt.
Vous ne dites pas qu'il décède. Qu'il est décédé, etc. Comment, est-ce que de temps en temps, vous vous méfiez justement des euphémismes qui sont des façons de parler parfois pour adultes?
Oui, alors en fait, les angoisses des enfants et des adultes ne sont pas tout à fait les mêmes. La mort, par exemple, peut être beaucoup plus anxiogène pour un adulte que pour un enfant qui ne la comprend pas de la même manière. Et sur tous ces sujets assez délicats, on est aidé par une psychologue, Stéphanie Raffano, psychologue pour enfants, avec qui on écrit les papiers et qui nous aide aussi dans le choix des termes, dans le choix des façons d'aborder les sujets pour justement... être le plus précis possible sans créer de l'anxiété inutile.
Par exemple, par rapport à des sujets particulièrement violents, à quoi ça vous contraint ? Est-ce que vous modifiez la façon de parler ? Est-ce que c'est très différent de ce que vous écririez si vous écriviez dans la presse pour adultes ?
Oui, je pense qu'effectivement, la question de l'euphémisme, elle ne se pose pas pour les enfants, puisqu'ils ont besoin toujours d'avoir des choses très concrètes. Effectivement, il n'y a pas d'implicite, il n'y a pas de sous-entendu, on ne laisse pas de place à l'interprétation dans la mesure du possible, puisque... En fait, une information sensible, comme par exemple un attentat, dont malheureusement on parle de plus en plus dans nos éditions, sont des informations qu'ils vont essayer de trouver par eux-mêmes si jamais on ne leur donne pas. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de leur donner l'information la plus complète et la plus précise pour qu'ensuite ils puissent en parler avec leurs parents, avec leurs professeurs, et que ce soit pas une information partielle. S'ils entendent des rumeurs dans la cour de récréation et qu'elles sont pas forcément vraies, ils pourront ensuite se faire un avis critique là-dessus.
Est-ce qu'il y a des versions différentes selon justement que vous vous adressez à un public de 7, 9, 9, 11, 11, 13
Oui, à la fois dans la syntaxe, les mots de vocabulaire. Pour la version des plus petits, des 6-8 ans, on va vraiment faire des phrases sujet, verbe, complément avec des mots très simples. Et puis plus on va aller vers un âge élevé, plus on va essayer d'étoffer un peu notre propos, d'avoir des idées un peu plus conceptuelles, notamment pour les plus grands, et puis de leur donner aussi des mots de vocabulaire qu'on explique dans notre article, qu'on définit et dont on propose une version audio pour qu'ils puissent avoir la bonne prononciation, et qu'on retrouve aussi ces mots de vocabulaire dans un jeu de notre application sous forme de pendu, ce qui leur permet en plus d'avoir un côté un peu ludique pour retenir ces nouveaux mots.
Alors, puisque vous y venez vous-même, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce jeu.
En fait, on a trois jeux dans chaque application qui utilisent les différents supports qu'on propose, à savoir les images, les mots, et puis un troisième jeu sur les dates de l'histoire. Donc le premier, c'est un pendu où on reprend les mots de vocabulaire et ils doivent trouver les lettres comme un pendu classique. Le deuxième, c'est des puzzles. On utilise les images de certains articles et ils doivent reformer les images. Et le troisième, c'est un jeu qui s'appelle « C'est arrivé le ». Et en fait, on prend la date du jour, on trouve un événement marquant qui a eu lieu dans les années précédentes et on essaye de leur faire apprendre une nouvelle information un petit peu insolite, un petit peu amusante pour replacer des grands événements dans l'histoire.
Et c'est lorsqu'on choisit son application qu'on va se mettre dans la tranche des 6-8, des 8-10 ou des 10-12.
Absolument.
Et est-ce que ce sont à peu près les mêmes articles que vous réécrivez en changeant un petit peu de vocabulaire ou un petit peu de longueur de phrase pour que justement on lise l'article qui est destiné au 10-12 ou au 6-8?
Alors ça va être le même sujet, ça va être le même angle. Et après, c'est des informations supplémentaires qu'on ajoute au fur et à mesure qu'on fait grandir la version. Enfin, généralement, on commence par la version des plus grands en termes d'écriture journalistique et qu'ensuite on réduit un peu pour les moyens et encore un peu pour les plus jeunes.
Et ça dépend aussi un peu des sujets. Il y a des sujets très sensibles comme un attentat, par exemple. Mm-hmm. Là, on peut le traiter complètement différemment en fonction de l'âge, puisqu'un enfant de nos lecteurs les plus âgés ont 13 ans, comprend pas du tout ce genre d'informations de la même manière qu'un enfant de 6 ans. Pareil, quand on parle de harcèlement à l'école, quand on parle on a parlé aussi des orphelins dans la journée mondiale des orphelins. Quand on fait des sujets sensibles comme ça, on peut faire des articles qui sont très très différents. Mais de manière générale, en effet, c'est plus une question de richesse de l'information et de niveau de vocabulaire.
Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on lit « Dis-moi tout » ou « Le progrès des enfants » ? Quelle stratégie de lecture ? D'abord, ce n'est pas de la presse papier. Ce qui veut dire qu'on peut glisser de ce qu'on lit à un atlas, à une carte, à un dessin. Il y a un surf possible.
Oui, alors nos journaux se lisent de façon ludique et se lisent aussi avec les oreilles, puisque toutes les versions de tous les articles ont une version audio qui permet aux enfants qui sont le moins à l'aise avec la lecture d'entendre l'intégralité de l'article. On a aussi une version anglaise qui est également enregistrée par notre équipe à New York. Donc là, on a aussi une carte qui place à chaque fois l'enfant par rapport à l'événement, le lieu où il se produit. Donc il peut voir si quelque chose se passe à Pékin, où est Pékin, où il est lui, comment on dit bonjour là-bas. On met des petits éléments amusants sur le lieu pour lui faire découvrir aussi des pays qu'il connaît pas. Et donc le principe, c'est de pouvoir naviguer entre les photos, la carte, les vidéos, le contenu audio et de pouvoir les jeux évidemment, et de pouvoir se faire une petite promenade comme on le veut en passant d'un article à l'autre, puisqu'on essaye d'avoir des éditions assez variées avec à la fois du sport, à la fois de l'actu internationale, de l'insolite, des animaux. Pour que tout le monde, chaque enfant puisse s'y retrouver et avoir des articles qui l'intéressent.
Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vos journaux sont lus, sont utilisés ? Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui recourent à la version vocale ? Est-ce qu'on écoute une fois qu'on a lu ? Est-ce qu'on écoute à la place de lire ? Ça doit être difficile parce qu'il y a des cas très différents selon vos abonnés. Mais bon, quelle est votre idée là-dessus ?
Alors, mon idée, je pense que ça dépend aussi de l'usage. Notre application américaine est beaucoup utilisée dans les écoles. Et donc là, les versions audio sont très très utiles pour les dictées, pour l'apprentissage du français, de l'espagnol. En France, moi, j'ai des messages de lecteurs dont je sais qu'ils préfèrent lire et écrire puisqu'ils aiment ça et qu'ils participent beaucoup à nos concours d'histoire et tout ça.
Ça, c'est tout à fait normal, mais c'est parce que ce sont les messages. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui vous écrivent, évidemment, ce sont ceux qui vous ont lu. Et ceux qui vous entendent, peut-être qu'eux n'écrivent pas puisque déjà, ils sont un peu récalcitrants par rapport à la lecture.
Oui, on a des exemples de lecteurs qui, en fait, sont des auditeurs et qui écoutent les articles plutôt que de les lire.
Ils peuvent envoyer des messages vocaux ? Ça ne se fait pas encore ?
Non, c'est vrai, ça ne se fait pas.
Alors, ils ne peuvent pas envoyer des messages vocaux, mais on a aussi une démarche qui consiste à nous aller dans les écoles. Je l'ai fait, par exemple, au moment de la semaine de la presse et des médias. J'ai été dans 8 écoles différentes dans la région où est diffusé le progrès, donc le Rhône et la Loire, notamment, à la rencontre de ces enfants. Donc, on a pu échanger, pour ceux qui n'aiment pas écrire des messages, en direct dans les classes. Et ils ont pu me donner leur avis sur tel article, me dire ce qui leur plaisait ou pas. Donc, on avait un vrai retour interactif avec eux.
Alors, le progrès des enfants donc est né dans la région lyonnaise, alors que Dis-moi tout est lié à Ouest-France. Vous avez en même temps parlé des versions en anglais, parce que au départ, il y avait ce même type de presse qui venait, je crois, d'outre-Atlantique.
Oui,
qui venait des États-Unis ou en tout cas d'Amérique du Nord.
Oui, le tout premier titre s'appelle News-O-Matic et donc il est né à New York il y a 4 ans. Donc évidemment, il y a des synergies entre nous. Donc c'est eux, ils étaient bilingues anglais-espagnol depuis le début. Ils sont maintenant aussi en français.
En français, en direction du Québec plutôt ou du Canada francophone ?
En direction du Canada francophone et puis aussi pour des raisons pédagogiques. Il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le français à l'école aux États-Unis. Il faut savoir que nos applications sont téléchargées dans 148 pays. Donc il y a beaucoup d'enfants bilingues aussi qui vivent à l'étranger, qui nous lisent.
Donc vous êtes à la fois très régionaux, l'Ouest et la région lyonnaise, et très internationaux.
On essaye de parler dans les sujets régionaux de choses qui peuvent intéresser tout le monde. Le principe, c'est de faire découvrir aux enfants le monde qui les entoure proche de chez eux, et puis aussi en France, et puis au-delà de leurs frontières, dans le monde entier, et de les connecter aux enfants du monde entier, dans la mesure du possible, sur des sujets un peu transversaux. Par exemple, là, on prépare un papier sur la Russie qui accueille la Coupe du Monde. Et donc, on interroge des enfants russes qui nous expliquent comment ça se passe en Russie, l'effervescence qui monte, quels sont leurs joueurs préférés, les franco-russes qui ne savent pas pour qui ils sont vraiment. Voilà. Donc,
Comment interrogez-vous des enfants russes ? Vous avez des correspondants en Russie ?
Oui, je fais appel un peu à mon réseau d'amis journalistes qui sont implantés là-bas, qui connaissent des gens. On a parfois des enfants spontanément qui nous écrivent, notamment pendant les ouragans. Il y en a certains qui vivent dans les Caraïbes qui nous ont écrit en disant « Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, voilà ce qui s'est passé. » On utilise beaucoup dans ces cas-là leurs témoignages dans nos articles, selon l'idée qu'un enfant un enfant parle très bien à d'autres enfants.
Et parfois, vous avez des correspondants donc, qui sont des enfants.
Oui.
Et des lecteurs ou d'anciens lecteurs.
Alors, j'ai un exemple très précis, Saïk, 10 ans,
oui.
Qui fait le tour du monde avec ses parents.
Je l'ai vu revenir bien souvent, Saïk,
oui.
dans vos...
Alors Saïk fait le tour du monde avec ses parents et donc en ce moment il est en Thaïlande et à chaque nouveau pays il nous envoie une carte postale dans laquelle il décrit le pays qu'il a visité, ce qui s'est passé, il nous envoie des photos, il fait aussi beaucoup de vidéos et donc notre petit reporter qui fait le tour du monde montre aux enfants, leur fait découvrir plein de pays incroyables et partage ses expériences.
Et vos lecteurs sont très conscients alors que de temps en temps ils lisent des articles écrits par des enfants.
Oui,
parce
que tous les articles sont signés.
Est-ce que ça leur plaît beaucoup ?
Oui, ça leur plaît beaucoup. Ils sont souvent très contents de voir leur témoignage à eux dans les articles. On fait des concours d'écriture assez régulièrement, par exemple sur la Saint-Valentin, sur Pâques, qui fonctionnent très très bien. Il y a énormément de participation. En général, ils se répondent par nous interposés en disant est-ce que vous pourrez dire à telle personne qui a dit ça que je suis d'accord avec elle ou pas d'accord ou voilà. Donc ça peut créer des débats assez intéressants. On fait même des articles pour et contre dans lesquels ils débattent, chacun donne son avis sur un sujet précis. Et ça, effectivement, ça crée une interactivité qui est très précieuse.
Et comment ils s'inscrivent les enfants? Comment ils entendent parler de ça? C'est les parents qui inscrivent les enfants souvent ou pas forcément?
Alors c'est les parents, c'est aussi les écoles. Ça peut être du bouche à oreille et on espère que c'est aussi grâce à RFI.
Bah écoutez, merci beaucoup Véronique Guémard. Merci beaucoup Lara Mercier d'être venue nous parler de Dis-moi tout et du progrès des enfants auxquels je convie tous les auditeurs, jeunes surtout, moins jeunes peut-être, à s'inscrire. Et maintenant, il est tout à fait question d'aller voir ce qui se passe du côté de notre séquence Ma parole.
Ma parole, ça t'apprendra.
Bonjour Déborah Gros.
Bonjour Yvan.
Merci bien de venir nous voir avec votre belle casquette crânement vissée sur la tête et votre caméra à l'épaule. On voit bien que c'est le cinéma aujourd'hui qui vous intéresse. On est à la fin du mois de mai. Le mois de mai, ce n'est pas seulement le mois de Marie, c'est le mois du cinéma et en particulier le mois du Festival de Cannes. Alors à RFI Savoir, bien sûr, on s'intéresse au cinéma, à ce qui peut être dit du cinéma sur l'antenne d'RFI, pour s'en servir comme support pédagogique pour enseigner le français.
Et voilà, nous on ramène toujours tout à la classe de français. Et là, en effet, il peut être vraiment intéressant d'amener le cinéma dans la classe.
Alors, d'abord parce que ça intéresse les élèves et les étudiants.
Exactement, ils ont toujours quelque chose à dire. Et puis il y a toujours des cinéphiles dans une classe. Et avant d'écouter divers extraits sonores sur le thème du cinéma, il peut être intéressant dans la classe de toujours d'introduire cette thématique-là, avec pourquoi pas un peu de vocabulaire et notamment les rôles au cinéma, puisque en français on va parler de réalisateur, réalisatrice. Alors parfois en anglais c'est directeur, enfin il y a directeur, directrice,
oui, c'est pas
producteur,
tellement...
productrice.
Oui. Alors producteur, productrice, on utilise ça en français, directeur pas tellement. Ça, voilà. Ça serait plutôt un anglicisme, mais en revanche on parle de réalisateur, metteur en scène aussi, quoique metteur en scène, un peu plus du côté du théâtre.
Voilà, et puis il y a les mots qui viennent d'autres langues aussi, le scénario, et puis tout le vocabulaire anglais.
Ça vient
anglais,
d'une autre langue, mais c'est un vrai mot français,
voilà.
Hein, scénario, même si ça vient d'italien, synopsis, même si ça vient du grec, bon, on les a intégrés.
Et puis les flashbacks, les zooms, et enfin tous ces mots-là, en tout cas il peut être intéressant de faire un petit point de vocabulaire avec les élèves avant de commencer à aborder cette thématique-là. Et puis, donc sur RFI Savoir, là on va trouver toute une gamme de sélection, une gamme d'extraits sonores, et notamment pour le niveau débutant, on peut commencer par leur faire écouter l'ambiance d'un cinéma français.
Bonsoir.
Tadam.
Bonsoir.
Alors, 19h, Castel Chinois.
Une bonne soirée.
Mesdames, bonjour.
La 5, c'est à l'étage.
Voilà, bonne soirée. Qu'est-ce que vous venez voir de beau, monsieur?
Bonsoir.
Ça marche.
Ouais, deux places.
Alors, 21,80.
Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bon, voilà. Ça, c'est mon enfance, hein, on dit plus ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore tout un climat particulier quand on entre dans une salle de cinéma, avec des mots particuliers aussi. Il y a l'ouvreuse. Là, c'était un ouvreur.
Voilà.
Très souvent, on utilise le mot au féminin pour parler de cette personne qui vous conduit à votre siège et qui est rémunérée au pourboire. Donc, faut pas oublier la pièce quand même.
Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie petite scénette sonore. Il n'y a pas de voix de commentaire. On est plongé là. Donc, ça peut être une bonne introduction aussi dans la classe pour faire entendre cette atmosphère-là sans forcément qu'il y ait de difficultés de compréhension. On retrouve juste tous ces petits mots. Puis, ça peut donner lieu après à un petit jeu de rôle, une scène une scène avec avec les élèves autour de cette idée de d'achat des billets, et puis on entre dans le cinéma, etc. Voilà. Ensuite, un autre exercice intéressant qu'on peut faire en classe de français, c'est évidemment parler d'un film, parler de ses personnages, parler de l'histoire d'un film, en faire un résumé. Par exemple, dans cet extrait, c'est ce qui est proposé.
Amine est sénégalais, il travaille en France sur des chantiers. Il a laissé femme et enfants au pays où il envoie l'essentiel de sa paix. Le film raconte son quotidien, le travail au noir, les chantiers difficiles, toute une vie de labeur mal payée. Et quand Amine entame une liaison avec une infirmière, Emmanuelle De Vos, c'est encore une autre forme d'exploitation.
Il a dit qu'il est marié dans son pays.
Ah oui, je sais qu'il est marié, moi je suis au courant, mais moi je le demande pas en mariage.
Alors là, c'est un extrait du journal En français facile qui parlait du film Amine de Philippe Faucon. C'est un film qui faisait partie de la sélection du Festival de Cannes 2018. Et là, eh bien, la journaliste, en quelques phrases, eh bien, elle présente le personnage principal, Amine, et puis son histoire, qu'est-ce qui lui arrive. Il tombe amoureux, mais il est parti en France pour travailler, pour envoyer de l'argent à sa famille, etc. Donc c'est une sorte de résumé très, très simple qui va en même temps donner quand même envie d'aller en savoir plus sur l'histoire.
Et qui peut donner aussi envie aux apprenants de français de faire la même chose sur d'autres films, c'est-à-dire de raconter le début de l'histoire pour donner envie qu'on en sache un petit peu plus, de raconter les deux premières scènes, de dire comment ça commence. Parce qu'après, l'appétit vient en mangeant, quoi.
Exactement. Voilà, ça c'est en effet tout un art de ne pas en dire trop, d'en dire juste assez. Donc un bon exercice. Et puis évidemment, on peut aussi parler d'acteurs et d'actrices, plutôt là du côté de la biographie de ceux qui interprètent les rôles.
Là aussi, il y a une petite différence entre le cinéma et le théâtre. Souvent au théâtre, on parle de comédiens et de comédiennes. Oui. Et pour le cinéma, on parlera plus volontiers d'acteurs et d'actrices.
Mmh, en effet. Et donc, alors, on a sur RFI Savoir, il y a beaucoup de ressources qui concernent des portraits d'acteurs et d'actrices. Alors, hélas, c'est souvent lié à leur disparition, à leur mort.
Pas forcément, ça peut être lié à leur divorce, à leur mariage, à leur deuxième divorce,
vrai.
À leur troisième mariage. La vie sentimentale alimente quand même beaucoup ce genre de chronique.
Exactement. Mais alors là, j'ai choisi un extrait d'une ressource qui se trouve sur le site et qui concerne un acteur très populaire quand même du cinéma français, Jean Rochefort, qui est mort en automne 2017.
Plus qu'un comédien ou une vedette, il était devenu un compagnon de notre vie, un oncle de province que l'on ne croise qu'une ou deux fois par an, mais dont le regard ou le sourire suffisait à nous faire nous sentir bien. En effet, rebondit le Figaro, Jean Rochefort, il fait partie de la famille. Avec son sourire en coin, l'air de celui qui n'en pense pas moins, c'est le voisin farfelu, le beau-frère à manier avec des pincettes, l'oncle d'Amérique qui n'a jamais quitté l'Hexagone. Il est capable d'être un médecin de Molière ou encore un vrai fumier. Il possède cette juste dose de lâcheté qui lui offre une ample palette, une brusque noirceur dans les yeux, le rend parfois aussi inquiétant qu'un Jean-Louis Trintignant.
Bon, alors là, on a affaire à un beau portrait, très littéraire, très écrit, qui d'ailleurs va être plutôt destiné à une classe de
assez avancée, quand
assez
même.
Avancée,
oui,
exactement,
oui.
Parce que pour comprendre toutes ces expressions, le voisin farfelu,
l'oncle d'Amérique qui est jamais parti,
voilà, un fumier, une personne là, donc bref, toutes ces expressions là. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que on a en tout cas un vocabulaire très fouillé et puis une façon de parler de cet acteur qui est même assez poétique.
Et là aussi, on peut donner envie aux gens qui apprennent le français, aux élèves, aux étudiants, de choisir un acteur, une actrice qu'ils aiment bien et d'en faire un portrait à charge ou un portrait à décharge, un portrait élogieux ou un portrait peut-être plus vipérin.
Eh
bien écoutez, merci beaucoup Déborah Gros d'être venue dans cette séquence Ma Parole, nous parler d'RFI Savoir et nous parler de la façon dont RFI aide à enseigner et apprendre le français. Tout ça dans cette danse des mots qui remercie aussi Bérénice Guémard et Lara Mercier qui étaient là dans la première partie de cette émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.